Mon premier jour de Noël heureux. Tous les élèves du pensionnat du docteur Martinet, à Rilanskaxter, dans le comté d'York, avaient des amis et des parents. Tous les élèves allaient passer les vacances chez eux. Tous les élèves avaient des mères qui venaient les voir, qui pleuraient lorsqu'ils avaient la rougeole et qui leur apportaient des gâteaux et des oranges ou leur envoyaient de grands paniers remplis de tartes aux prunes, des amandes, du raisin sec, du pâté de porc, de la pâte ferme, du fromage de Stilton, des pommes sèches et des poires fondantes. Tous les élèves écrivaient des normes placées à l'adresse de leurs honorés parents sur du papier d'une énorme épaisseur que l'on appelait lettres de vacances, mais qui ressemblait plutôt à des lettres de sursis, à des poursuites du greffe, à des pièces de haute trahison, à des testaments, ou enfin à quelque chose d'aussi affreux. C'est-à-dire tous les élèves du pensionnat, excepté les deux internes des Indes occidentales et moi. Les deux internes des Indes occidentales n'écrivaient jamais à leurs parents, parce que leurs parents étaient à Demerara, et je suppose que les ports de lettres auraient été trop chers. Je n'écrivais jamais aux miens, parce qu'ils étaient morts. Quand j'étais un bien petit, mais tout petit garçon, à peine capable de me souvenir de quelque chose, je me rappelle d'avoir été habillé en noir. J'aimais cela, le noir, parce que cette couleur déteignait sur mes mains et me transformait en homme et en frère. Je me rappelle aussi d'avoir été conduit dans un cimetière de quelque grande ville, un cimetière tellement encombré de tombes qu'il paraissait extraordinaire de ne point les voir tomber les unes sur les autres, passer par-dessus le mur d'appui et se renverser dans la rue. Par une dame très jeune, je crois, et très jolie, je sais que j'aimais à la regarder parce qu'elle avait un teint clair et radieux comme certaines charmantes peintures et paraissait toujours vouloir s'évanouir et tout habillée comme moi de noir. Je me rappelle qu'elle s'asseyait sur une tombe et me prenait dans ses bras en me disant bien bas, car elle pleurait tout le temps, que je ne trouverais jamais dans le monde des amis pareils à ceux qui étaient enterrés là, que jamais je ne retrouverais un amour semblable à celui qui était enfoui dans ce petit coin de terre, et que si jamais je devenais homme et qu'il me vint à l'esprit l'idée de commettre une action basse ou mauvaise, je devais venir à cet endroit auparavant et lire ce qui était gravé sur cette pierre, ce que je ne pouvais faire encore. J'ai appris depuis que cette dame était ma tante. Comme toutes les choses les plus brillantes et les plus belles que j'ai connues sur cette terre, elle en partit peu de temps après et je portais des blouses noires jusqu'à l'âge de 7 ans. Et lorsque j'eus atteint cet âge, je fus mise en pension chez le docteur Martinet à Rilanskaxter, dans l'est du comté d'York. Je n'ai rien de mal à dire en jetant un regard rétrospectif sur mes premières années. Je n'ai rien de mal à dire du docteur Martinet. Somme toute, nous étions très heureux à Rilanskaxter. Nous avions du mouton rôti en abondance, du mouton bouilli en quantité et beaucoup d'un liquide douteux que nous supposions être du lait et de l'eau, beaucoup de propria coué maribus, de discours d'Enfield, de coupes de cheveux et d'église. Deux fois chaque dimanche, nous nous placions dans l'aile centrale de l'église de Sainte-Marie de Rilanskaxter. Et deux fois chaque dimanche, nous prenions des notes sur le sermon du vicaire ou du curé, afin de le reproduire selon notre propre volonté, pour notre édification et notre amusement pendant la soirée. Mon opinion personnelle est que le curé et le vicaire nous détestaient cordialement. Figurez-vous 34 gamins vous regardant fixement pendant que vous prêchez, et 34 crayons griffonnant vos paroles sur un papier criard aussi vite que vous les prononcez. C'est ce que le curé et le vicaire, je veux dire le vicaire et le curé, avaient à endurer tous les dimanches de la part des élèves du docteur Martinet. Mais, comme je le disais plus haut, en somme, je n'étais pas malheureux. Durant la demi-année de leçons et d'exercices, la demi-année de propria quae maribus et des discours d'Enfield, de bons et de mauvais points, d'instants de repos volés dans le sombre dortoir et des jeux de barre dans la grande cour de récréation, je fus passablement heureux. Mais le jour de Noël, ce Noël que 31 élèves sur 34 attendaient avec tant d'impatience, Noël qui, pour ces 31 individus, signifiait la maison et l'amour, dindes rôties et monceaux de délicieux plum pudding baignant dans l'eau-de-vie brûlée, poignées de châtaignes et corbeilles d'oranges, attaques de nerfs et baisers sous le gui donnés par de jeunes cousines, Colin Maillard et Cache-Cache, et tant d'autres bonnes choses qui, pour moi et pour les deux élèves de Demerara, n'étaient que des mots inconnus et vides de sens. Le jour de Noël était une époque triste, cruelle et amère. Ce personnage allégorique, vieux, gai, jovial, à la face rubiconde, à la chevelure blanche et flottante, à la couronne de feuilles de houx, au sourire engageant, était pour moi un mauvais démon qui me disait tout bas « Je ne suis point pour toi ce que je suis pour les autres. Je ne viens à toi que pour te rappeler un amour qui est à jamais perdu, pour te faire souvenir d'un intérieur que tu n'as jamais connu, des chères petites sœurs et des bons et aimables frères que tu n'as jamais eus, du foyer pétillant et gai près duquel tu ne t'es jamais assis, des douces paroles que tu n'as jamais entendues, des baisers maternels qui n'ont jamais pressé tes misérables lèvres, des tendres prières qui n'ont jamais été murmurées pour toi. Était-ce donc étonnant si je détestais Noël, si je détestais les tas de neige dans la cour des récréations, que les autres élèves aimaient tant, et avec lesquels ils construisaient d'immenses fortifications et simulaient la bataille de Waterloo, comme si cette fameuse rencontre eût été un siège? Est-il donc étonnant que je détestasse les chanteurs de complainte et la musique de minuit? Est-il donc étonnant si, au moment de nous quitter, je me grisais avec du vin sucré fait avec du sherry du Cap à 18 pence la bouteille? Si j'avais l'ivresse triste, maussade, au lieu de la voir gaie et joyeuse, comme les autres jeunes gens, et si j'étais tout disposé à chercher querelle à ces beaux messieurs lorsqu'ils venaient me raconter les plaisirs qu'ils allaient avoir pendant ces vacances de Noël? Je remarquai que les jours de Noël qu'ils allaient passer devaient être encore plus amusants que ceux qu'ils avaient déjà passés et qu'à leur entrée en classe, ils se disputaient pour savoir lequel d'entre eux s'était le plus diverti pendant le congé et en venaient même au coup à propos de plum pudding et de pâté de hachis. Mais ils s'en allaient, ils partaient tous. Ceux qui habitaient la ville de Rilston-Caxter étaient emmenés par leurs grandes sœurs, tantes ou oncles, pères ou mères. Ceux qui demeuraient plus loin avaient plus de chance, peut-être, parce qu'ils s'en allaient par la diligence la rapide qui allait de Londres à York et qui sortait de la rue des Messageries avec des variations sur le cornet du conducteur qui pénétrait jusqu'au fond du cœur des internes de Demerara et du mien. Ils partaient tous, et nous autres, trois malheureux grelottants petits êtres, nous restions seuls dans la grande salle d'études, triste et déserte. Et nous allions, de long en large, nous racontant des histoires de revenants, jusqu'à ce que nous n'osions plus lâcher nos blouses dans la demi-obscurité causée par la neige. Nous griffonnions sur les livres des autres élèves, nous jouions à des jeux tristes et ennuyeux, et dans lesquels le bruit de nos pas était répété dans la salle vide. Nous rongions le bout de nos crayons et mâchions le coin de nos livres, et par-dessus tout, nous causions tout bas de ce que nous ferions lorsque nous serions des hommes, ayant femme et enfants. Notre intention était de tenir ferme nos femmes et notre famille, je puis vous l'assurer, et l'un des élèves de Demerara allait même si loin qu'il donnait à entendre que si jamais il trouvait sa femme le moindrement en défaut, il aurait recours au châtiment corporel. Mais nous ne fûmes point de son avis et il fut contraint de retirer sa motion. Il y a cependant un certain jour de Noël dont je me souviens et j'ai une raison toute particulière pour m'en souvenir. Il faisait une belle journée, claire, froide et sèche, une journée de Noël telle que je m'en rappelle peu de semblable, une journée qui est passée de mode, je crois, ainsi que les habits bleus et les boutons de cuivre, les diligences, les gardiens de nuit, les comédies en cinq actes et l'intérêt pour l'agriculture, une journée très froide, une journée de décembre avec laquelle on ne badine pas. Les deux élèves internes des Indes occidentales avaient le bout du nez aussi rouge que des piments du Chili. Nous ne fîmes que trembler de froid durant tout le service de l'église dans les salles vides et solitaires. Le vent passait sous la porte et nous coupait les jambes. Nous soufflions alternativement sur les engelures de nos mains, excepté lorsque le docteur nous regardait Et alors, par un puissant effort de la nature, nous restions un instant tranquilles et paraissions avoir chaud et n'avoir jamais tremblé de notre vie. Du côté opposé à notre banc se trouvait le banc d'un officier de marine en retraite qui s'appelait Beausserre. J'ai depuis eu des raisons de croire qu'il était lieutenant en demi-solde. Mais je sais que nous tous, chez le docteur Martinet, nous pensions qu'il était au moins amiral et que même il aurait dû avoir un grade plus élevé sans l'ingratitude du gouvernement. Drake, Nelson et Beausserre, voilà les seuls héros que nous connaissions dans la marine, et Beausserre était pour nous le plus chéri des trois. Si quelqu'un se fût avisé de nous dire qu'il n'était pas présent à Trafalgar, ou que Nelson eût pu gagner cette bataille sans lui, ou que tout homme eût pu faire son devoir et répondre à l'attente de l'Angleterre sans son concours, je ne crois pas qu'il eût fait bon pour le contradicteur. Je le répète, nous avions foi en Beausserre. Il avait le teint coloré, il était gros et avait l'air jovial, il avait une jambe de bois et, excepté à l'église, jamais on ne le rencontrait sans un télescope. Il avait un drapeau qui flottait sur sa petite maison de campagne située à 3 milles de Rilston-Caxter. Il jurait continuellement et parlait toujours très haut, avec une voix forte, puis il avait la réputation d'être le meilleur buveur de tout le comté, d'enterrer sous la table les plus hardis convives, tout en restant parfaitement sobre lui-même. De sorte qu'à nos yeux, c'était le type du parfait capitaine, et c'est pourquoi nous le vénérions comme tel. À présent, je dois vous faire remarquer que ce jour de Noël-là, l'amiral, je prendrai la liberté de lui donner le titre que, dans ce temps-là, je croyais lui appartenir, l'amiral Beausserre nous fixa très attentivement pendant la plus grande partie du service, et il regardait bien en face lorsqu'il s'y mettait, moi et les deux élèves des Indes occidentales. Et au moment où le froid était le plus intense dans l'église, et quand le vent nous coupait les jambes, lui, Beausserre, au beau milieu du sermon du vicaire, nous cligna de l'œil à nous trois. Personne autre qu'un homme qui s'était battu à bras-le-corps avec 6 Français à la fois, à la bataille de Trafalgar, n'eût pu commettre une telle action. Mon admiration contemplative et ma consternation furent telles qu'elles me réchauffèrent et que je ne sentis plus mes engelures durant le reste du sermon. Mais ce n'était rien encore. Figurez-vous mon étonnement et l'étonnement des deux élèves de Demerara lorsqu'en quittant la cour de l'église et après avoir échangé les compliments d'usage avec notre respectable professeur, le grand Beausserre s'écria de sa voix la plus retentissante « Docteur, n'avez-vous aucune raison particulière à m'objecter si j'emmène ces 3 gamins à la maison avec moi ?» Nous étions 3 jeunes gamins, mais ces paroles ne pouvaient être à notre adresse. C'était quelque chose de trop étourdissant pour être compris par nous de prime abord. Tous 3, nous retenions notre haleine. « Ces jeunes garçons ?» demanda le docteur interrogativement. « Ces jeunes garçons, monsieur !» répliqua Beausserre affirmativement, en m'appliquant sur les épaules une claque dont je me rappelle encore le bruit aujourd'hui, mais malgré tout, j'en étais enchanté. « Ces jeunes garçons, docteur, ma voiture m'attend, je les conduirai dans ma maisonnette, je leur offrirai leur dîner de Noël, et avant 10 heures, Scrozer ira les reconduire. Dites oui si cette jeunesse veut accepter. » Nous étions cramoisis tous les 3, étouffant de plaisir et d'attente. Cela ne pouvait être vrai, malgré ce que j'entendais. Dîner avec Beausserre? Passer le jour de Noël avec Beausserre? Non, non, c'était un rêve impossible. Le docteur répondit qu'il n'y voyait aucun empêchement. Aucun empêchement, en vérité, aucun empêchement. Cela lui économisait 3 tranches de bœuf et 3 morceaux de plum pudding et 3 demi-pintes de la bière la plus faible. Voilà ce qu'il gagnait à ce marché, je le crois parbleu bien. Sautez vivement dans la carriole, mes enfants, s'écria le noble Beausserre, et je vais vous conduire à la maison d'un tel train que vous ne vous apercevrez point si le vent est chaud ou froid. Sautez vivement. Nous étions à la porte de l'église et tout le monde sortait du temple, mais nous poussâmes un cri d'allégresse aussi accentué que pouvaient nous le permettre nos faibles poumons, tandis que le plus glorieux des commandants de la marine nous hissait dans sa vieille calèche à quatre roues et que, d'un coup de fouet et d'une secousse sur les rênes, il fit prendre à son gros poney brun un trot allongé. C'est tout au plus si nous pûmes saluer le docteur avec nos casquettes pendant qu'il se tenait à la porte avant d'avoir quitté l'endroit et, en un instant, nous étions déjà loin sur la route, passant rapidement devant les haies blanchies par le givre et regardant d'un air narquois les figures vermeilles des paysans et les grosses fermières qui passaient à nos côtés dans des charrettes chargées d'enfants au teint rosé qui allaient passer le jour de Noël en ville. Avant que nous fussions complètement remis de notre enlèvement rapide, le voyage était terminé et nous étions arrivés. Nous étions dans la charmante maisonnette aux fenêtres basses à l'ancienne mode, aux embrasures profondes, aux rideaux rouges, aux armoires garnies de curieux coquillages des mers du Sud et de toutes les merveilles de l'océan, remplies d'oiseaux empaillés des tropiques et de plantes marines des plus curieuses. Pleine de porcelaines indiennes et de coffrets en ivoire venant de Chine, que jamais personne n'ouvrait et que personne n'eût pu fermer s'ils avaient pu être ouverts. Le délicieux petit cottage, ayant un crocodile empaillé dans l'antichambre, tué par le vaillant Boster bien au-delà de la seconde cataracte du Nil, les portraits peints à l'huile de Boster et de Madame Boster, mortes depuis longtemps, pauvres créatures, ainsi que nous le dit le commandant, le joli salon et la charmante petite salle à manger, avec sa table scintillante de verreries taillées et d'argenterie à l'ancienne mode, et par-dessus tout, Boster lui-même, rouge et radieux, le cœur joyeux et content, frappant çà et là le parquet, avec sa glorieuse jambe de bois, et racontant à sa séduisante nièce comme quoi son cœur s'était serré à la vue de nos nez rougis par le froid et de notre mine gelée à l'église, et comme quoi aussi il lui était venu subitement à l'idée l'envie de nous emmener dîner avec lui. Et c'est pour cela que je vous fis signe de l'œil, mes garçons, au beau milieu du sermon. C'était pour cela que je vous fis signe, s'écria tout joyeux le hardi vieux marin, tout en disant à sa jolie nièce et gouvernante, elle était très fière d'être sa gouvernante, d'avoir soin de nous, tandis qu'il allait s'occuper de monter du vin. La dernière fois que j'allais à Rilston-Caxter, je descendis à cheval jusqu'à ce cher vieux cottage pour le voir encore une fois. Hélas, il n'existait plus. On bâtissait à la place qu'avait occupée la maisonnette hospitalière et le long de son toit effondré une immense maison de correction dans l'architecture du temps d'Élisabeth. Et tout ce que je pus apprendre de l'amiral Boster me fut fourni par une inscription gravée sur une pierre tumulaire, érigée dans le cimetière par son affectionnée, reconnaissante et désolée nièce. Mais tous ces souvenirs me reviennent tout frais, et je suis un gamin en blouse, comme autrefois, et je vois encore le cher vieux Boster revenant à la salle à manger avec une bouteille dans chaque main, puis une autre bouteille sous chaque bras et un tire-bouchon dans la bouche, se mettre en devoir de se servir de cet instrument. « Ceci, dit-il en tirant le bouchon numéro 1, c'est du madère, enfant, et le madère a son bon côté, surtout lorsqu'il a fait le voyage d'Angleterre à Calcutta 3 fois, tel que celui-ci, et celui-ci, enfant, c'est du Porto. » Continua-t-il en retirant le bouchon numéro 2, et le Porto n'est point une si mauvaise chose quand il date de la comète de l'an 1811 et qu'il a été acheté à la vente des caves d'un marquis. Et celle-ci, dit-il en débouchant le numéro 3, c'est de l'eau-de-vie française, aussi douce que du lait et aussi pâle que de l'aile des Indes. Et le numéro 4, mes garçons, c'est du chindam et c'est tout, mes enfants, et vous les goûterez tous, sans parler du punch au rhum que ma gentille petite nièce va nous préparer plus tard, avant que vous retourniez chez vous ce soir. » Nous retenions notre respiration de nouveau. Nous avions entendu parler de ce royaume merveilleux où les cochons de lait couraient tout rôtis, le couteau et la fourchette plantés dans les côtes, mais nous crûmes que la maison de l'amiral Boster dépassait tous ces récits. Mais, ô mon Dieu, le dîner ! Quel dîner ! Et quel dîner prolongé ! Seulement, l'amiral et sa jolie nièce et un jeune lieutenant assis à côté d'elle, ayant tant de choses à lui dire, qu'il ne se souciait que fort peu, l'insensé, de toutes les bonnes choses qui fumaient devant lui. et dire qu'il n'y avait que l'amiral, sa nièce, le jeune lieutenant, un vieux chirurgien de marine de Rilson Caxer et nous trois. Pour un pareil dîner. Du bœuf rôti, un aloyau tellement fort que je ne voyais pas l'amiral qui se trouvait derrière et dont je ne pouvais entendre que la voix, rauque et forte, qui faisait trembler les branches de réfort avec ses puissants accents. Du bœuf rôti et du dindon bouilli avec de la sauce aux huîtres et de la langue et un plum pudding monstre tout enflammé d'eau-de-vie sucrée et un immense plat de pâté au hachis enflammé encore avec plus d'eau-de-vie. De sorte que le second service ressemblait à l'ouverture d'une scène de pantomime éclairée par des feux de Bengale. Et le vieux cher amiral, remplissant nos assiettes, d'abord avec du bœuf, puis du dindon, du plum pudding par-dessus du pâté de hachis et de ce même pâté sur des tranches de plum pudding, et ne cessant pas de nous servir jusqu'à ce que nous disions que nous avions eu un morceau de tout et que nous eussions déboutonné le dernier bouton de notre veste du dimanche. Oh, quel dîner ! Nous bûmes du madère comme si c'eût été un vin ordinaire et toutes les fois que nous buvions à la santé de l'amiral, nous poussions des « hip hip hip, hurrah !» de façon que les assiettes en dansaient. Je sais que le chirurgien de marine insista un instant en disant que le madère était peut-être trop capiteux pour des écoliers, mais le bon vieux Boster le réduisit au silence en lui demandant si lui détestait le madère lorsqu'il était en pension. Cet argument nous parut d'une telle force que nous secouâmes la table à la renverser tandis que l'amiral était allé en chercher une autre bouteille. Bonté divine, nous étions des garçons si timides qu'il nous était impossible de rendre la santé à qui nous la souhaitait. Mais sous l'influence de Boster et du madère de Boster et du plum pudding de Boster et de son eau-de-vie brûlée, nous devînmes trois lions et nous dîmes à la compagnie, au dessert, aussi clairement que le permettaient nos bouches, alternativement remplies de châtaignes, de figues, d'amandes, de raisins secs, de macarons et d'oranges, notre opinion sur le docteur Martinet, sur la grammaire latine, sur le mouton du docteur Martinet, ainsi que sur la grande quantité de gras qu'il nous fallait avaler, contrebalancée par le peu de maigre. Et puis, nous leur racontâmes nos vues pour l'avenir, et comme quoi nous avions l'intention d'être marins tous les trois, et je me rappelle que je fis savoir à l'amiral que le premier navire que j'aurais, et cela ne dépasserait pas un an après mon entrée au service, porterait le nom de Boster, du vaillant Boster. Et cette idée, si pleine de droiture, si spontanée, si simple et si vraie, impressionna tellement ce pauvre marin au cœur si généreux et si bien placé qu'il déboucha une autre bouteille de Porto provenant des caves du défunt marquis de n'importe quoi, afin que nous puissions baptiser convenablement et avec honneur le vaisseau de Sa Majesté le vaillant Boster. À ce moment, je commençais à éprouver une sensation si singulière que, depuis le temps qu'elle est passée, il me paraît difficile de la décrire convenablement. En premier lieu, mes idées d'espace et de temps furent complètement renversées et j'eus beaucoup de peine à savoir si aujourd'hui était demain ou hier. Puis, beau sœur, mon Dieu, comme il me parut diaphane et transparent. Par moments, Boster me semblait s'éloigner si rapidement de moi que je ne l'apercevais plus qu'au loin, derrière les carafes et les bouteilles, à une demi-lieue au moins. Ceci n'était encore rien, mais lorsque Boster se rapprochait de moi, dans ma manière de voir alors, il semblait s'avancer vers mon individu avec la rapidité d'une locomotive faisant 60 miles à l'heure. Et les internes des Indes occidentales. S'ils avaient seulement voulu rester deux pendant quelques minutes, je leur aurais pardonné. Mais ils ne le voulaient pas. Pendant une minute, ils étaient là, calmes et souriants, peut-être un peu pâles, mais très heureux, et dans leur nombre normal, deux. Je les regardais ensuite, et ils étaient quatre au moins. Et 3 minutes après, ces affreux garçons enflés se dilataient et se multipliaient d'une telle façon que je me trouvais en face d'un régiment entier de figures jaunes, de cheveux frisés, tous natifs de Demerara et formés en carré. Je crois que nous nous rendîmes dans le salon et je sais qu'en traversant l'antichambre, quelqu'un, dont j'oublie le nom, tomba dans le seau à charbon. Et, chose étrange à dire, mes tibias me firent mal toute la soirée. Puis, ensuite, la nièce de l'amiral chanta une romance si douce et si jolie, ayant rapport à l'amour, à la fidélité, une si jolie romance que le lieutenant dit que c'était la plus jolie romance qui jamais eût été composée. Mais, tandis qu'elle la chantait, cette romance se transforma aussitôt en la baie de Biscaye, et le vieil amiral conduisit les chœurs, et nous chantions de toutes nos forces « La baie de Biscaye caille ». C'est ainsi que nous prononcions. Ô cher jour de Noël, jour qu'il ne faut jamais oublier, que de changements et de hasards j'ai éprouvé depuis. Combien de tristes jours de décembre, combien de chagrins amers pour effacer l'éclat luisant du houx consacré, oublier la douceur du riche plum pudding et faire prendre en exécration le dindon et changer les joyeux sons du festin en coups frappés sur une cloche funèbre. Combien de chocs cruels pour changer la face de cette joyeuse époque en un pâle et morne visage, terrible à envisager et plus terrible encore à se rappeler. Mais jamais, cependant, jamais, tant que je vivrai, je n'oublierai le 25 décembre et ce vaillant vieux Boster, chantant à tue-tête ses glorieux refrains, avec cette honnête et grosse voix de basse taille qui ne se fera plus entendre ici-bas. Mais avant qu'il eût fini de chanter la baie de Biscaye, nous étions déjà loin sur la route sombre, sans étoiles et couverte de neige. Je n'ai jamais pu découvrir comment nous nous étions trouvés là, mais nous étions empilés ensemble et entortillés dans un gros paletot appartenant à l'amiral et conduit dans une voiture à quatre roues par l'homme de confiance de l'amiral, James Crowther. James Crowther ne nous dit pas un seul mot, et quoique je me souvienne que j'avais une envie terrible de lui parler et de lui donner des détails sur le vaisseau de Sa Majesté, le vaillant Boster, les paroles se séchaient sur mes lèvres et je ne pouvais rien lui dire, et après avoir parcouru une certaine distance qui me parut être incalculable, Crowther donna une secousse et me dit de descendre. Il me dit de descendre. Ce James Crowther me dit distinctement de descendre. Mais comme je lui faisais comprendre que non seulement nous n'étions pas chez le docteur Martinet, mais bien dans le cimetière de Sainte-Marie de Rilston-Caxter, et comme je disais à Crowther que je ne demeurais point dans le cimetière, Crowther se contenta de me répondre de nouveau de descendre. Et quoique ce ne fût pas mon intention, malgré moi je descendis et restai à grelotter dans l'intérieur du cimetière, tandis que Crowther et les deux élèves disparaissaient dans un char de feu. Et pour la première fois, je remarquai qu'au lieu du gros poney brun, Crowther conduisait le crocodile empaillé qui était dans l'antichambre de Boster. Ils étaient tous partis et j'étais seul parmi les vieilles tombes couvertes de mousse verte. Pas une étoile ne se montrait au ciel, pas une lumière ne se faisait voir dans la grande rue de Rilston-Caxter, pas un son de voix humaine, pas le plus faible écho d'un pas humain ne se faisait entendre pendant cette triste nuit d'hiver. Je n'entendais que ma propre respiration et le bruit de mes pas sur la neige nouvellement tombée. Je n'avais que 13 ans, j'étais d'un tempérament nerveux et je savais plus d'histoires de revenants que quiconque dans la classe, de sorte que j'étais tant soit peu effrayé. « De sorte que vous voilà revenus enfin, » dit-on derrière moi. Je me retournai pour regarder la personne qui avait parlé. C'était un fantôme d'assez bonne mine, il était assis sur une tombe, une bêche à la main et les jambes croisées. Je sais que je m'étonnais de le voir se balancer ainsi. « Revenu, monsieur, » dis-je, car je n'avais pas bien compris sa question. « Revenu ? Oui, certes. Croyez-vous que nous souffrirons ces sortes de choses ?» Je savais qu'il était un fantôme parce qu'il n'était point opaque, comme la plupart des gens. Il était tellement transparent par le fait que je pus lire au travers de son mollet à la mémoire d'eux. « Croyez-vous, dit-il, que nous pouvons tolérer que nos garçons, » il prononça distinctement « nos garçons », s'amusent à courir ainsi et à s'étouffer de nourriture chez le vieux Crowsters ?»« Je vous demande pardon, monsieur, chez Brewster, » répliquai-je. « Oh, très bien !» me répondit-il avec vivacité. « Brewster ou Crowster, cela m'est égal. Mais ce que je dis est ceci. Nous ne pouvons avoir nos fosses vides ainsi, et nous ne pouvons tolérer que des enfants qui ont été enterrés dans notre propriété se promènent de cette manière. » enterré dans votre propriété, m'écriai-je. Je vous demande pardon, monsieur, mais je n'ai jamais été enterré parce que... Je cherchais une bonne raison. Parce que je ne suis pas mort. Le fantôme du fossoyeur partit d'un éclat de rire fantastique, un rire tellement fort, quoique ce fût un petit homme, que toutes les urnes et tous les ossements du cimetière tremblèrent et sautèrent au bruit de ce tonnerre. Pas mort, en voilà une bonne. Pas mort, mais ne vous souvenez-vous pas d'être mort de la rougeole en... Voyons, en quelle année êtes-vous mort? Je crois que c'était en 1803. Oui, c'était en 1803. Ne vous souvenez-vous point d'être mort de la rougeole et d'être venu ici pour être enterré? Je lui répondis que je ne pouvais pas l'affirmer. Vous avez peu de mémoire, dit-il, ainsi que la plupart des gens. Eh bien, je vous assure que nous avons un vieux monsieur qui fut enterré ici il y a un mois environ et qui était continuellement dehors, et nous ne réussîmes à le faire rentrer qu'en lui montrant sa magnifique pierre tumulaire avec une épitaphe en latin. « Mais mon temps est précieux, » ajouta le fantôme du fossoyeur. « Ainsi, laissez-vous tomber au fond. » Et je regardai en bas, dans la direction que me montrait le fantôme, et, regardant ainsi, je vis une fosse tellement profonde que je ne pouvais en voir le fond. « Laissez-vous tomber là-dedans, » dit-il. « Vous avez le numéro 47. » Je crois que je répondis, ou du moins que je voulus faire des observations, mais je ressentis une sensation que je ne puis comparer qu'à celle que m'aurait fait éprouver la diligence la rapide en tombant sur moi avec son conducteur et ses quatre chevaux, pour ne rien dire de ses voyageurs et du bagage, le tout appuyé sur ma poitrine, les voyageurs sortant de ma gorge. J'étouffai, je ne pus prononcer une seule parole. De sorte que je tombai dans le numéro 47. Dans le numéro 47, dans 47 millions de lieues de néant, dans 47 royaumes d'espace, moi, pensionnaire chez M. Martinet, à Rilson Caxer, voilà dans quoi je tombai en tombant dans le numéro 47. Décèle et un peu de ce nez et il sera mieux, dit une voix du fond du numéro 47. C'était la voix de Marthe Maurice, la jeune femme qui prenait soin de notre linge, raccommodait nos effets et nous nettoyait dans la pension du docteur Martinet. J'étais couché dans mon lit, dans le dortoir à 8 lits, et nous étions au lendemain matin, et je n'avais jamais été du tout dans le cimetière de Sainte-Marie, et James Crowther m'avait ramené à la pension profondément endormi et sain et sauf, mais un peu indisposé par la quantité de madère, de porto et de punch au rhum que j'avais prise. Mais une dose de sel et de séné m'eut bientôt rétabli, et l'amiral promit au docteur qu'il serait plus prudent une autre fois. Et, aussi longtemps que je restais à Rilson Caxter, c'est-à-dire encore 5 années après cette époque, je passais mes jours de Noël dans le vieux cottage hospitalier chéri, et je dînais dans la salle à manger meublée en acajou du vieil amiral Booster.